Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre accueil. Bon, on va parler un petit peu de l'Archiguérie. Hop, alors, voilà. Voilà, là comme ça, vous m'entendrez comme ça? Là c'est mieux, hein? Voilà. Alors, vous serez peut-être surprise d'un neurologue qui s'intéresse à l'art, mais si vous passez dès le début de l'histoire de la neurologie est une invention française hein, avec Jean-Martin Charcot, vous voyez qu'un peu ses consultations avaient quand même quelque chose, un peu moins de l'art du cirque, avec des gens qui s'évanouissaient, enfin beaucoup. Et puis il s'intéressait beaucoup à l'art tout de suite, donc il avait des élèves qui dessinaient bien, lui aussi dessinait bien, et il avait fait le tour des musées d'Europe pour traquer ce qu'il appelait les démoniaques dans l'art. Alors qu'est-ce que c'est les démoniaques dans l'art? C'est un peu des figures de l'hystérie, quoi, des gens qui s'évanouissent, des choses de ce genre. Et voilà. Et puis il a eu cette très belle phrase qu'il a dit La science et l'art sont alliés, deux enfants d'Apollon. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose, ça nous relie tout de suite. Et puis sur la fin de sa vie, il a écrit un tout petit livre qui s'appelle La foi qui guérit. Alors c'était quand même quelqu'un de très pragmatique, de très concret. Donc tout le monde a pensé qu'il était devenu fou. Pourquoi il fait un livre sur la foi qui guérit? Alors ce livre, il se lit en une demi-heure, hein, vous le trouvez facilement sur Internet, il est en accès libre. Ben, qu'est-ce qu'il dit? Tout simplement, il dit que ben, en tant que neurologue, et ça lui arrive, et c'est pas rare d'avoir des patients pour lesquels il ne peut rien faire, ben, si ces patients ils ont envie d'aller dans un lieu comme Lourdes ou quelque chose comme ça, où ils pensent qu'ils pourront obtenir une guérison, il ne va surtout pas les empêcher, quoi. Il va leur dire, en filigrane, il témoigne de la force de l'esprit sur le corps, quoi. Et voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Donc c'était un petit peu en hommage que je me suis permis d'appeler mon livre sur les effets de l'art, l'art qui guérit, quoi. C'est un clin d'œil à Charcot. Ben, c'est vrai que dire l'art qui guérit, c'est peut-être un peu fort, mais enfin dire l'art qui aide à guérir, qui sert à améliorer la santé mentale, entre autres, c'est une évidence. Alors, chez Charcot, on est encore dans les croyances, maintenant on est dans les connaissances. Vous avez ce fameux rapport de l'OMS, donc du 11 novembre 2019, qui nous, c'est notre arme massive, puisqu'il y a 900 articles médicaux de haut vol qui nous disent que l'art nous fait du bien. Alors, c'est la santé au sens de l'OMS ou de l'UNESCO. Ce n'est pas uniquement l'absence de maladie, c'est le bien-être, quoi. C'est important. Si vous n'avez pas de maladie, mais que vous êtes malheureux, enfin, vous n'êtes pas dans des côtes. L'important, c'est le bien-être. Donc, 900 articles médicaux pour montrer que toutes les formes d'art peuvent nous aider à nous sentir bien, quoi, dans le sens de la santé. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ces 900 articles, hein, de façon très simple, bon, ben, les liens entre l'art et la santé, ben, on va de l'esthésie à l'esthétisme, c'est-à-dire que quand vous êtes devant une œuvre d'art, ça passe par les sens, bien sûr, vous avez des sensations, ça va être mélangé à ce que vous avez en mémoire, et puis ça va vous faire sentir, peut-être par le biais de votre imagination, vous arrivez à l'esthétisme, au sentiment de beau, et puis ça peut affecter absolument toutes les composantes de votre existence, bien sûr, le psychisme, mais aussi directement votre cerveau, vos émotions, le côté social. Quand vous êtes devant une œuvre d'art que vous aimez bien d'en parler aux autres. Donc il y a un côté. Puis devant une œuvre d'art, on est tous égaux, quoi. On ne sait plus qui. On va parler de cette œuvre d'art, si ça nous plaît. Et puis l'impact sur la santé, voilà un petit peu. Bah, je vous ai B2B, bah, bon, vous voulez que je vous le relise? Non, bah, si vous voulez faire une photo. Voilà. Donc l'esthésie à l'esthétisme, l'implication esthétique, l'imagination, l'activation sensorielle. Bon. L'impact sur les émotions, la stimulation intellectuelle, l'interaction sociale, l'activité physique et la santé, l'implication dans la santé et également les interactions avec les soignants. Donc, c'est un petit peu ce rapport avec ces réponses, donc à la fois psychologiques, physiologiques, sociales, comportementales, l'implication sur la santé, donc à la fois dans la prévention, la promotion de la santé, l'entretien et le traitement. Bon, ça, je ne vais peut-être pas vous détailler tout ça. C'est bon, je remarque qu'on a un peu de temps, donc ça va. Vous me direz, hein, si je suis trop long, vous me ferez signe. Hein, donc, le côté social, on l'a vu. Donc, devant une œuvre d'art, on est tous égaux. Le développement des enfants, le lien entre la mère et l'enfant, ben, l'enfant, il chante avant de parler. Donc, la maman, elle va chanter. Puis, petit à petit, il va arriver au langage. Le prendre soin, bien sûr, le comprendre sur la santé. Prévention, alors notamment dans les maladies mentales, quoi. Une œuvre d'art peut vous sauver de la mélancolie, d'une dépression, vous sortir d'un traumatisme. Surtout quand vous commencez à tourner en rond, une œuvre d'art, ça vous fait voir d'autres horizons, ça vous fait prendre de la distance, quoi. Une fois que vous êtes en haut de la montagne, vous voyez les choses aux petits soucis de façon différente, ça peut aider. Prévention du déclin cognitif, c'est que les seules grandes découvertes qu'on ait fait dans la maladie d'Alzheimer, c'est qu'avoir une vie sociale, une vie culturelle, ça protège, ça retarde l'apparition, ça vous fait une petite réserve intellectuelle. Donc venez à des conférences comme ça, c'est aujourd'hui, vous gagnez quelques années de vie mentale. Bon, ça peut agir sur les prématurés, c'est le prématuré, il est dans sa couveuse, on lui fait mal, il est privé de sa mère, ben, simplement lui passer de la musique ou la voix de sa mère qui chante, eh ben, il va mieux se développer. Si c'est les prématurés ont un petit retard pour l'audition, ben, s'ils entendent chanter, ben, à la naissance, enfin, quand ils ont atteint les 9 mois, l'audition est normale. Et puis, ils peuvent développer un cerveau de stress qui peut les suivre toute leur vie, c'est-à-dire que toute leur vie, ils peuvent être stressés, même si tout va bien, sans savoir pourquoi. Ben, s'ils entendent la voix de leur mère dans la couveuse, ils n'auront pas le cerveau de stress, ça va diminuer les hormones du stress, donc ça, c'est important, puis ça ne coûte rien, je veux dire, c'est quand même quelque chose de facile à mettre en place. Bon, encourager des comportements sains, ça, je mettrais peut-être un petit bémol, hein. C'est l'OMS qui dit ça, mais je ne suis pas sûr que les activités artistiques entraînent toujours des comportements sains. Enfin, déjà, chez les artistes, ce n'est pas du tout sûr, et chez nous, ça l'est. Enfin bon, je laisse un petit bémol sur ce que dit l'OMS. Quoi. Voilà. Alors voilà ce gros livre, quoi, où il y a les 900, les 900 textes, et c'est ça donc, qui a été... Au départ, c'était pour nous, c'était une grande force pour créer l'invitation à la beauté. On avait quelque chose de concret. Vous voyez, on n'était pas sur des croyances, on était dans des connaissances. Et puis, quand même, 900 articles, ça vaut le coup, quoi, c'est bien. Voilà, l'or maillot. C'est ça qu'il faut faire la photo, hein, quand on voit l'or. Voilà. Et puis, Nathalie Bondil, donc, elle a créé la muséothérapie à Montréal. Donc voilà. Donc je me suis retrouvé comme ça, associé avec des cyclones, des tornades. Il y en a deux là. Et puis la troisième, c'est Carole Burillon, qui est la doyenne, qui était la doyenne de la faculté de médecine de Lyon, Claude Bernard, et qui a été aussi doyenne des doyennes. Donc vous imaginez, doyenne des doyens. Vous imaginez cette force. Voilà. Donc c'est un tourbillon dans lequel je suis entraîné bien volontiers. Voilà. Et puis alors derrière. Ce livre, vous savez, vous regardez toujours la quatrième de couverture. Hein, il y a une phrase de Braque, une belle phrase qui nous dit « L'art est une blessure qui devient lumière ». Vous voyez, là, donc ça, c'est joli. Alors, je propose dans les 6 heures qui viennent d'essayer de comprendre ce que veut dire cette phrase. Non, c'est ça. Non, 1 heure, 45 minutes. Bon, on va y arriver. « L'art est une blessure qui devient lumière ». Alors, si parmi vous, il y en a qui s'intéressent un petit peu aux légendes arthuriennes ou à Wagner, ben voilà, vous avez celui-là, vous avez peut-être pensé à lui. Donc, c'est le roi Amfortas, c'est le roi des chevaliers du Graal, vous voyez. Et puis, vous voyez, il a une figure un peu christique. Alors, il tenait sa force de cette lance qui a percé le flanc du Christ. Vous voyez que cette lance, elle était convoitée par beaucoup de monde. Et Hitler la convoitait, Indiana Jones. Enfin, il y a beaucoup de gens qui voulaient cette lance. Et puis, autour de lui, il y avait cette femme un peu ambivalente qui s'appelait Kundry, qui est un peu... Alors, Kundry, elle a entraîné Amfortas dans ses amours, et pendant qu'ils étaient en train de batifoler, il y a un méchant qui s'appelle Klingsor, un ancien chevalier qui est passé du côté obscur de la force. Vous voyez qu'il a resservi par la suite, qui vole la lance. Il vole la lance. Donc, et puis, en même temps, il perce le flanc d'Amfortas. Donc, quand Amfortas revient vers chez Chevalier du Graal, vous voyez, il a une grosse blessure. Et pendant 6 heures, quand Wagner nous développe Parsifal, on se demande comment la blessure va guérir, si elle va guérir. Alors, on a souvent une blessure psychique et on ne sait pas si elle va guérir ou pas guérir. Donc, bon, chez Wagner, au bout de 6 heures, elle va guérir, mais il existe une pièce de théâtre qui raconte la même histoire où la blessure ne guérit pas. Et on comprend pourquoi elle ne guérit pas, parce que pour Amfortas, c'est toute sa vie. Sa blessure, c'est ce qui lui permet, si elle guérit, il n'est plus rien. Quoi. Vous voyez, des fois, on est comme ça, on s'enquiste dans nos blessures. Bon, là, au moins, avec la musique, même si c'est du Wagner, on est sûr qu'on peut réussir à guérir. Voilà. Voilà, il y a même son père qui sort de là. Vous savez, c'est juste après Pâques, c'est pas mal. Hein. Donc, on a cette blessure, vous savez, qui perce le flanc du Christ. Et puis, c'est le sang qui coule, ça va être le Graal, quoi, ce Graal qu'on va rechercher. Voilà. Alors, ce qu'il y a de curieux, c'est que, vous voyez, on va percer comme ça le flanc du Christ avec cette lance. Et le premier objet d'art qu'on ait connu dans l'humanité, c'est justement une pierre taillée comme ça, un biface, qui permettait de tailler la viande. Donc, il y avait quand même une fonction. Mais on en a retrouvé plein qui ne s'est jamais servi de couteau. Elles servaient de bijoux. Donc tout de suite, un objet qu'on va fabriquer qui sert pour cuisiner, pour couper la viande, mais en même temps qui a aussi un côté artistique. Donc il y a un côté pour le jour, un côté pour la nuit. Et on a cette jeune femme qui est une anthropologue. Donc elle a demandé à des sujets de tailler des pierres, comme ça, en écoutant, en regardant ce qui se passait dans leur cerveau. Ben, elle s'est aperçue que il se passait la même chose que quand on apprend à jouer du piano, c'est-à-dire développer leur lobe frontal qui nous permet d'agir sur le monde. Vous savez, quand vous jouez du piano ou si vous taillez une pierre, ben vous avez les yeux, les oreilles, le geste, et avec le retour du son et des yeux, le geste, il va devenir de plus en plus précis. Et vous voyez, au fur et à mesure qu'on a taillé des pierres, ben notre beau lobe frontal, il s'est développé. Donc c'est une des hypothèses de notre évolution. On a peut-être évolué parce qu'on est devenu des artistes. On a taillé des pierres et en même temps, on s'est sculpté notre cerveau aussi. Bon, il y a d'autres théories qui sont d'ordre alimentaire, mais bon, celle-là, elle est belle quand même. On est devenu artiste. En devenant artiste, on a taillé notre cerveau. Et puis, tout de suite, on voit qu'il y a les deux fonctions, la fonction pour le jour, fonction utile, puis pour la nuit, pour le rêve, pour l'imagination. Donc, deux fonctions qui sont exactement la même chose pour notre cerveau. Alors là, c'est les trois cerveaux, faut oublier tout ça. Ça a valu un prix Nobel, mais maintenant c'est caduque, on n'en parle plus. Puis ça fait trop trois, donc on va en garder que deux. Donc on a deux cerveaux. Attention, parce qu'après il y a des questions. Il y a un QCM après qu'on a élaboré avec Laure. Okay. Voilà. Alors le premier cerveau, on peut dire qu'il est dédié à Apollon. Oh, pardon. J'ai déjà donné le deuxième. Le premier cerveau, il est dédié à Apollon. Ben, vous captez des informations par les sens, vous comparez à ce que vous avez en mémoire, et puis votre beau lobe frontal, il vous dit ce qu'il faut faire pour rester en vie. D'accord? Mais ça, si on n'avait que ça, on s'ennuierait, parce qu'un ordinateur, il ferait la même chose. Alors, heureusement, on a un deuxième cerveau dans les profondeurs de notre cerveau, un cerveau archaïque, qui lui est dédié à Dionysos. Alors, voilà, bon, ben, je trouve un Dionysos qui porte pas de polémique. Voilà. Donc, Dionysos, donc, c'est le plaisir, la récompense, et c'est en ce sens-là que l'art peut être un côté chimique. Alors, reprenons le premier, Apollon. Donc voilà, c'est pour ça, comme il y a l'interro, je le dis deux fois, comme ça vous retenez bien. Alors, vous captez les informations par les sens. Vous voyez, la vision, curieusement, c'est tout à fait à l'arrière du cerveau. L'audition, évidemment, c'est derrière l'oreille, mis à part que ce qui rentre dans cette oreille-là, c'est traité de l'autre côté. Hein, tout est inversé. Et puis, vous avez le tact, lobe pariétal. Après, les sens chimiques que l'or développera, l'odorat, le goût, ça va directement dans le cerveau. Il n'y a pas d'étape, c'est plus rapide. C'est pour ça, peut-être, qu'on peut avoir des moyens intéressants. Et puis après, notre beau lobe frontal qui nous distingue de l'animal et qui nous permet d'agir sur le monde, avec le gendarme qui est dans le lobe frontal, qui fait en sorte qu'Apollon et Dionysos s'entendent bien, parce que Dionysos, il est bien plus puissant qu'Apollon. Et tous les jours, vous entendez parler de gens dont on mettra jamais en doute les capacités intellectuelles et qui ont fait d'énormes bêtises. Vous voyez, c'est pas parce que c'est Dionysos qui. Alors avant, on parlait d'une chambre à New York, enfin un Novotel, et puis maintenant, on n'en parle plus. C'est pas, voilà. Et voilà Dionysos avec le circuit de la récompense. Alors, quand vous activez ce circuit de la récompense, c'est vraiment de la chimie, c'est de la pharmacie. Vous voyez, donc c'est dans ce point de vue-là, vous n'avez pas besoin de médicaments, l'art peut les remplacer. Alors, qu'est-ce que vous avez à vous faire sécréter là-dedans? La dopamine. Alors, la dopamine, c'est le neuromédiateur de l'élan vital, c'est ce qui vous donne envie de faire quelque chose. C'est ce qui manque dans la maladie de Parkinson. Donc, la dopamine, elle est impliquée dans le mouvement et dans le désir, voyez. Et puis finalement, il y a plein de gens qui pensent aujourd'hui que c'est la même chose. Quand vous voulez quelque chose, vous désirez quelque chose, vous êtes bien obligé de bouger pour aller chercher ce qui vous tente, voyez. Donc la dopamine, c'est ce qui fait notre joie de vivre, quoi, voyez. C'est pas. Après ça, on a de la sérotonine. Bon, ben, c'est tout ce qu'on a dans les antidépresseurs, donc le côté antidépresseur d'une œuvre d'art. De l'endorphine, donc vous écoutez une musique qui vous plaît, un tableau qui vous plaît, vous pouvez avoir des frissons parce que vous sécrétez de la morphine. Donc directement, vous aurez moins mal. Vous aurez moins mal, non seulement parce que l'œuvre d'art va vous distraire de votre douleur, mais en même temps parce qu'elle vous fait réellement sécréter de la morphine. Vous voyez, donc c'est quelque chose de fantastique. Bon, après, ça agit sur l'adrénaline, le cortisol, ça dépend ce que vous cherchez. Si vous voulez vous calmer, ben, vous voulez prendre une œuvre d'art qui calme, une musique douce ou quelque chose. Donc vous diminuez votre adrénaline, le cortisol. Mais si vous avez envie de faire un marathon, vous allez au contraire prendre une musique, enfin quelque chose qui vous secoue, qui vous donne envie de courir. Et vous savez que maintenant, la musique est interdite chez les marathoniens, quoi. Ils n'ont plus le droit d'écouter de musique. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez l'écouter dans votre tête, vous n'avez pas besoin d'un appareil, quoi, c'est pas... Et puis après, bon, évidemment, ça agit aussi sur l'ocytocine. C'est l'ocytocine, on dit toujours l'hormone de l'amour, mais aussi l'hormone de l'attachement. C'est-à-dire que vous pouvez être attaché à une œuvre d'art, et c'est ce qu'on voit avec Laure maintenant. Et quand Laure a commencé son travail en mettant des œuvres d'art dans des services hospitaliers, bon, le patient qui le voulait avait l'œuvre d'art accrochée dans sa chambre, ben, s'il rechute, le simple fait de se souvenir de l'œuvre d'art avec laquelle il a passé sa première hospitalisation, ça va déjà mieux. Oui. Donc on a intérêt à ne pas l'avoir perdu quand il revient. Oui, donc il y a un effet vaccin. Vous voyez, ce système, c'est le système sur lequel agissent les drogues. Mais avec l'art, on n'a jamais eu les problèmes, les effets secondaires des drogues. Seule chose, c'est une musique qui peut des fois rester dans votre tête, parce que chaque fois qu'elle passe, elle vous fait sécréter tout ça. Donc Dionysos est content, mais Apollon, au bout d'un moment, il en a marre, quoi. Oui. Donc quand vous avez une musique qui tourne comme ça dans la tête, ben, soit il faut trouver une autre musique qui la remplace, soit mâcher du chewing-gum. Parce que quand vous mâchez du chewing-gum, ça occupe votre cerveau autre chose, et puis il oublie un peu cette rengaine qui va passer dans votre tête. Donc ça, vous voyez, c'est le côté, on peut dire que l'art sculpte et caresse notre cerveau, quoi. Il sculpte, il nous fait de nouvelles connexions, et puis en même temps, il le caresse en sortant toutes ces bonnes substances. Donc pour la santé mentale, c'est important tout ça. Alors le premier qui a... Pensez un peu à tout ça qu'il a exprimé, c'est Dürer. Donc Dürer, vous savez, Albrecht Dürer, il a fait beaucoup d'autoportraits parce que c'est un des premiers peintres à avoir eu accès aux miroirs. Son père avait des miroirs vénitiens, donc il se voyait réellement dans la glace. Avant, il n'y en avait pas, quoi. Donc pour ça qu'il se peint. Puis comme on lui a appris que Dieu a fait l'homme à son image, quand il se regarde dans un miroir, il pense qu'il voit Dieu. Enfin, il voit le reflet de Dieu. C'est pour ça qu'il se représente toujours de façon un peu christique. Voilà, un peu comme en Fortas. Et puis, pourtant, on est en 1500, il a inventé la télémédecine. C'est-à-dire que quand il a mal quelque part, il fait un petit dessin comme ça, il envoie à son médecin, il lui dit, voilà, j'ai mal là. Et voilà. Ah, où est-ce qu'il a mal là? Vous voyez, c'est... qu'est-ce qu'il nous montre là? Il nous montre sa rate. Bon, la rate en anglais, comment ça se dit? Spleen. Donc, il fallait que le médecin, il ait quand même les références. Donc, quand il monte la rate, il veut dire qu'il est mélancolique. Hein, vous voyez, c'est pas, il monte son spleen. Et c'est pour ça que Dürer est donc, hop, ah, voilà. C'est pour ça qu'il est surtout connu pour sa mélancolia, quoi, sa gravure Mélancolia ou la mélancolie. Alors, à l'époque, hein, Dürer est inspiré par Raphaël, qui a représenté Michel-Ange sous la forme d'un mélancolique. Michel-Ange était très mélancolique. Et après, Van Gogh représentera son médecin, le docteur Gachet, dans la position de la mélancolie aussi. Le docteur Gachet avait fait passer sa thèse à Montpellier sur la mélancolie. Enfin, ben, il n'a pas été trop bon avec son patient, avec Van Gogh. Hein, c'est pas, voilà. Alors voilà, donc c'est. Alors la mélancolie, à l'époque, on pense qu'elle nous vient de Saturne. On est mélancolique à cause de Saturne, les Saturnales, enfin, etc. Donc pour soigner la mélancolie, vous voyez, il y a plein de choses, mais notamment il y a ce carré magique. Ce carré magique, qui fait 34 dans tous les sens. Si vous êtes allé à Barcelone, vous avez vu à la Sagrada Familia, il y a un carré magique qui fait 33 dans tous les sens. Donc là, c'est l'âge du Christ, bon, ben, l'âge de la résurrection. 34, c'est pour attirer Jupiter. Vous voyez, donc vous attirez Jupiter, donc la jovialité, pour combattre la mélancolie. Vous voyez, ce carré magique. Alors ça marche bien. Moi, j'en ai fait mettre un sur ma maison. Et alors, quand j'ai construit ma maison, j'en avais parlé à l'architecte et tout. Hein, il n'a rien compris, il ne m'a pas fait le carré magique. Et puis 20 ans après, vous savez, quand vous devez faire recrépir une maison, ça coûte très cher. Moi, je ne trouvais pas d'entreprise. Et puis mon voisin. Je fais venir des gens d'Europe centrale qui parlent à peine français, tous ceux qui travaillaient bien, donc je fais crépir chez moi. Je parle du carré magique, ils savaient parfaitement ce que c'était. Dans l'arrière-pays, si on a des maisons dans les villages, il y a encore des carrés magiques dessus. Et là, ils savaient parfaitement. Donc, ils m'ont fait mon carré magique qui attire Jupiter et ça a très bien marché. Parce 15 jours après, j'ai pris la foudre. Donc, j'avais plus dedans. Voilà, donc ça marche bien. Et puis, on a un autre peintre, un élève de Dürer, quoi, qui s'appelle Grunewald. Donc c'est lui, c'est un autoportrait. Donc lui, on lui demande de faire une peinture, une fresque pour un hôpital où les gens ils souffrent d'ergot de seigle. Vous savez, ils ont mangé de l'ergot de seigle, c'est un champignon qu'on trouvait sur le seigle, on ne savait pas ce que c'était à l'époque, mais ça leur fait contracter les artères, donc ils ont une gangrène, il faut les amputer. Et en même temps, ça leur donne des hallucinations. On fait le LSD à partir de l'ergot de seigle. L'ergotisme, il y en a eu, mais c'est le Covid à côté, ça a été rien du tout, quoi. Ça a coupé toute l'Europe, etc. Donc on essaie de les soigner comme on pouvait. Et donc, On demande à Grunewald de faire voilà, une toile qui peut aider les patients et en même temps qui va résumer la façon de soigner. Alors lui, il interroge les patients ils disent qu'ils ressentent comme des flèches qui leur traversent le corps quoi, avec leur gangrène, donc il se fait un autoportrait comme ça. Et puis vous voyez, ça c'est ce qu'on montre dans l'église tous les jours de la semaine. Donc on voit Grunewald à gauche, une crucifixion, et à droite, on voit Saint-Antoine, puisqu'on pense que c'était Saint-Antoine du désert, c'est lui qui va permettre de guérir de l'ergot de sec. Donc on se réfère à Saint-Antoine, et donc les soignants, ils ont droit à avoir des cochons, c'est-à-dire ils nourrissent les gens avec des cochons. Donc il y a des cochons plein les rues, notamment à Lyon, et on n'a pas le droit de s'en occuper, c'est pour les patients, quoi. Donc on espère qu'ils vont guérir sous cette forme. Alors ça, c'est ce que vous voyez tous les jours de la semaine. Et puis quand c'est la fête, on ouvre le polyptyque. Alors vous voyez, à gauche, il y a une annonciation. À droite, il y a une résurrection, transfiguration. Il y a une guérison, quoi. Voilà un peu ce qu'on voit. Voilà la guérison. Vous voyez, plein de lumière. Après, au milieu, vous voyez, il y a une vierge donc, en centrale. Et à gauche, des anges musiciens. Et puis, quand vous regardez bien, là, tac, vous voyez, derrière la Vierge, vous voyez qu'il y a un monastère. Vous voyez, un monastère qui est assez spécial, puisqu'il a une tour triangulaire et une qui est horizontale. Alors, ça a été découvert assez récemment. Donc, ce monastère, en fait, c'est le monastère d'Hildegard von Bingen. Vous voyez, cette Léonard Vinci en femme au XIe, XIIe siècle. Donc, il croyait beaucoup au pouvoir de la musique, qui était la première naturopathe. Qui était une femme très forte, hein, qui a vécu 90 ans, qui n'hésitait pas à rouspéter tous les papes avec qui elle communiqua, les traiter de tout, leur dire qu'ils étaient mauvais, etc. Enfin, bon, voilà. Donc on sait que Grunewald, comme il gagnait pas assez comme peintre, il était aussi ingénieur hydraulique, et donc il a vu de ses yeux l'ancien monastère d'Hildegard von Bingen. On est quand même 4 siècles, 3-4 siècles après Hildegard von Bingen. Donc il s'est imprégné de ses idées pour faire son tableau, notamment sur les pouvoirs de la musique. Et sa naturopathie, le voilà, le monastère tel qu'il était. Voilà. Alors évidemment, on voit ces anges musiciens, ça nous rappelle les pouvoirs de la musique pour Hildegard von Bingen. Puis vous voyez, quand vous les regardez, vous avez toutes les couleurs de l'infrarouge à l'ultraviolet. On est quand même bien avant la connaissance de la diffraction de la lumière. Donc vous avez tous ces anges musiciens, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Derrière, vous avez Lucifer. Lui, il a toutes les couleurs sur lui, il est déguisé en paon. Il n'est pas vraiment dans l'orchestre, quoi. Et puis la Vierge à côté. Alors, juste après, il a fait une autre Vierge, je vois, qui a une auréole qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous voyez, donc on y vient tout doucement. Voilà. Et puis vous remarquez que la Vierge, elle est dans un triangle quand même. Alors bon, peut-être qu'il y a des amateurs des Pink Floyd dans la salle. Vous commencez à voir où je veux arriver. Voilà. Donc la lumière, le triangle, toutes les diffractions de la lumière. Vous voyez, c'est pas. Alors ça, c'est l'idée bien avant Newton. C'est l'idée de la médecine antique et puis de la médecine de la Renaissance. C'est une idée toute simple, c'est-à-dire qu'il faut toutes les couleurs, ça se lit dans l'autre sens, hein. Il faut toutes les couleurs, tous les sons pour avoir la guérison, pour avoir la santé. C'est-à-dire qu'il faut vivre dans des conditions harmonieuses pour être en bonne santé. C'est tout simple, hein, mais c'est bon, c'est quand même un grand principe fondamental. Donc, toutes les couleurs, tous les sons pour retrouver le son initial, la couleur initiale qui vous guérit. Et donc, à Lyon, quand Claude Bernard, qui est complètement athée, écrit son introduction à médecine expérimentale, finalement, il dit la même chose. Il parle de milieu intérieur, il dit qu'il faut tout soit équilibré dans notre corps pour qu'on vive en harmonie et qu'on vive en bonne santé, ce qui est un principe tout simple et qui est encore tout à fait valable aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas. Alors, ce qui fait dire au docteur Knock, puisque c'est quand même un équilibre, ça lui fait dire ben, c'est un équilibre, c'est instable, donc tout bien portant est un malade qui s'ignore. Ouais, c'est le triomphe de la médecine, voilà. Alors, la blessure qui devient lumière, on l'a là avec ce Christ en lumière qui avait ses blessures, qui va guérir. Donc, alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cette idée de l'harmonie qui nous sauve, enfin en tout cas qui est thérapeutique, c'est qu'il y a beaucoup de médecines dites primitives qui développent cette idée, notamment les Navarros. Pour les Navarros, le mot beauté et le mot santé, c'est le même mot. Vous voyez, donc on peut être en pleine santé que si. Donc ils font comme ça des peintures de sable sur le sol. Qui vont permettre de soigner les gens. Ah, voilà, je sais pas. Ah, pourquoi il repasse celle-là? Je sais pas. Ah, non, c'est moi qui appuie à l'envers, pardon. Voilà. Voilà. Voilà, les Navarros avec leur peinture de sable. Vous voyez, donc ils mettent le patient au milieu de la peinture de sable, ça dure plusieurs jours. C'est plus long qu'un opéra wagnérien. Et puis, ça marche bien, à condition que ce soit une pathologie psychosomatique. Évidemment, si c'est un cancéreux que vous mettez dessus, ça ne va pas beaucoup l'améliorer. Mais ça marche très bien, tel point qu'aux États-Unis, dans les États où il y a des Navarros, c'est remboursé par la sécurité sociale. Mais ça marche que chez les Navarros. Chez nous, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas la culture qui va avec. Dans les hôpitaux, il y a un coin pour les Navarros, on va les soigner comme ça, parce qu'on sait que ça marchera bien, sans avoir de besoin de médicaments à côté, quoi. Voilà. Alors maintenant, c'est maintenant le questionnaire. Maintenant, je vous ai appris la neurologie en 5 minutes, donc vous allez pouvoir répondre à ma question. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous regardez la Joconde? Alors, hop, voilà. Donc, vous le voyez, vous allez avoir la partie du cerveau qui correspond à la vision, qui va s'allumer. Donc, ça, c'est Apollon qui marche. Si la Joconde, elle vous plaît, ben, vous allez avoir le système du plaisir et de la récompense qui va s'allumer, là, un petit peu de dopamine. Et puis, il y a une zone qui, là, c'est là où vous ne pouvez pas savoir, puisque je n'en ai pas parlé. Donc, vous voyez, on a donc pour Apollon, on a pour Dionysos, et puis là, on a ce qu'on appelle le gyrus fusiforme. Alors, c'est curieux parce que cette partie du cerveau, normalement, s'allume quand on est face à quelqu'un de vivant, face à une entité biologique vivante. C'est-à-dire que quand vous regardez la Joconde, votre cerveau fonctionne comme si vous étiez face à Mona Lisa. Vous voyez, ce n'est pas de la peinture sur une plaque de bois, c'est quelque chose de vivant. Donc, vous pouvez vraiment interagir avec. Voilà une rare photo de la Joconde. Voilà. Alors, ça nous rappelle ce qui se passe chez les animaux. Les animaux, ils pratiquent l'art. Un éléphant, vous l'enfermez, s'il trouve une brindille de bois, il va commencer à dessiner. Et puis, on a cet oiseau qui est le plus connu, c'est le Michel-Ange de la nature et le jardinier de l'Autenbach en Nouvelle-Zélande. Vous voyez, il n'est pas très beau, donc il fait un grand nid et qui va colorer. Vous voyez, il va chercher des couleurs, il peint avec son bec, voilà son nid pour attirer les dames. Voilà, il trouve du bleu, des choses comme ça. Voilà, voilà c'est merveilleux. Alors, vous voyez, donc alors il chante, il danse, il a un petit cadeau dans la bouche. Donc la dame, elle est dans le nid. Lui, il est à côté, il va lui raconter plein de choses. Oui, il a le petit cadeau dans la bouche, il a un petit. Voilà. Voilà, alors en général, ça se termine bien, mais la dame s'en va aussi sec parce qu'il est complètement fou, donc elle reste. Alors, souvent, vous voyez donc ce qui se passe quand vous êtes devant la Joconde, mais qu'est-ce qui va se passer devant une peinture abstraite? Alors là, ça a été étudié aussi, lui, devant une toile de Fontana. Donc Fontana, vous savez, il donne des coups de cutter dans la toile. Tac. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, celui qui a étudié ça, c'est Rizzolatti. Donc Rizzolatti, c'est peut-être la plus grande découverte en neurosciences du siècle dernier. C'est les neurones miroirs. C'est quoi? Quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose, votre cerveau fonctionne comme si c'était vous qui étiez en train de faire ça. C'est pour ça que c'est si fatigant de voir les autres travailler. Enfin, voilà. Alors, si vous avez. Voilà, c'est un psychologue, donc il ne connaissait pas les travaux de Rizzolatti, c'était avant, mais il a montré que si vous tirez la langue à un bébé, il va vous tirer la langue. Donc, on apprend par ces neurones miroirs qu'on a dans notre cerveau. On n'apprend pas une technique en lisant des livres, on apprend en voyant les gens faire, quoi, petit à petit. Alors, Flaubert, il avait dit, après avoir écrit Madame Bovary, Madame Bovary, c'est moi. Quelle que soit l'œuvre d'art, oui. Quand vous regardez la toile de Fontana, vous refaites les gestes par les neurones miroirs, vous refaites les gestes de Fontana, donc vous redevenez, quand vous regardez de l'art abstrait, vous redevenez le créateur de l'œuvre d'art. Voyez. Pareil, ça a été étudié avec tous les arts, mais notamment aussi avec la littérature. Quand vous avez fini un roman, vous êtes devenu un peu les personnages du roman. Flaubert, il dit Madame Bovary, c'est moi. Et quand vous avez regardé, je sais pas, 65 épisodes de Breaking Bad, vous êtes devenus un peu les personnages de la série, quoi. Voilà, c'est bien. Donc il faut se méfier de ce qu'on regarde. Pierre Marcel Proust, qui avait une belle, il a bien expliqué ça. Il dit donc en réalité, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. L'ouvrage d'un écrivain n'est qu'une espèce d'instrument d'optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans le livre, il n'eût peut-être pas pu voir en soi-même. Vous savez, ça existe beaucoup, la bibliothérapie. Un adolescent qui n'ose pas trop parler de sa vie, si vous trouvez un roman qui peut lui permettre de trouver les mots ou de vivre à travers les personnages du roman ce qu'il a vécu, ça peut l'aider, quoi. Ça peut bien l'en sortir, quoi, ça. Hop. Voilà. Alors voilà ce qui se passe avec la musique. Là, on a vu avec la peinture, avec la musique. Bon, ben, vous n'êtes pas surpris, vous avez le lobe temporal qui va s'allumer. Et puis tout de suite, c'est le lobe frontal, parce que vous entendez un son, tout de suite, vous allez réagir, quoi, c'est normal. Ce qui explique pourquoi, par exemple, la musique va développer votre mémoire à court terme, notamment chez les enfants, les adolescents. Vous voyez, le plaisir en musique, il vient vous souvenez un peu de ce que vous avez entendu, vous anticipez sur ce qui va arriver après. Donc, soit le compositeur, il vous donne ce que vous attendez, vous êtes content, mais s'il fait ça tout le temps, vous ennuyez. Soit il vous donne un nouvel accord, et à ce moment-là, ça vous fait plaisir, mais s'il fait ça tout le temps, il vous stresse. Ben, les berceuses maternelles sont faites comme ça. La maman, elle répète, le bébé, il est content, puis de temps en temps, elle module, donc ça le réveille, ça le fait évoluer. Vous voyez, donc ça, c'est. Voilà ce qui se passe avec la musique. Et puis, vous voyez, donc ces neurones miroirs qui s'activent, c'est-à-dire que même vous entendez musique, vous n'avez pas le droit de. Vous êtes, c'est de la musique classique, vous ne pouvez pas bouger, mais votre cerveau, il s'en moque, il chante, il bouge, il danse, voilà. Alors voilà Rizzolatti qui nous dit toujours, vous voyez, il a toujours été très modeste, hein, les neurones miroirs, on en a fait beaucoup de choses. Hein, alors lui, il a toujours dit, il n'y a rien de magique, c'est de la photocopie, quoi. Donc, c'est pas. La magie, elle viendrait peut-être d'un peu plus loin, vous voyez, on va vers une autre zone du cerveau qu'on appelle l'insula. Donc l'insula, c'est une zone frontière entre Apollon et Dionysos. Donc elle fait passer les messages de l'un à l'autre. Bon, elle est impliquée aussi dans les drogues, dans la douleur, dans le dégoût, mais cette zone frontière, c'est importante parce qu'elle est impliquée dans l'empathie. Vous voyez, là, à droite, vous coincez les doigts dans la porte. Bon, ben, à gauche, vous avez la zone du tact qui s'allume, et puis cette insula qui s'allume, d'accord? Bon, si vous voyez quelqu'un qui se coince les doigts dans la porte, vous allez avoir l'insula qui va s'allumer, c'est-à-dire vous allez comprendre qu'il se fait mal en quoi. Ça ne veut pas dire que ce sera de la sympathie, mais vous comprenez ce qui lui arrive, quoi. C'est pas. Donc cette zone-là qui est très importante, l'empathie, qui va aussi s'activer bien sûr avec les œuvres d'art. Donc c'était ce qu'il nous a dit, de comprendre les autres de l'intérieur grâce à l'empathie. Donc il y a les neurones miroirs, mais il y a aussi ce système qui permet de relier Apollon et Dionysos, donc c'est de ressentir ce que ressentent les autres de l'intérieur. Et on a un autre système, donc maintenant, qui a été bien démontré aussi, qui s'appelle la théorie de l'esprit. Voilà ce que ça donne. Ah, super, on a le son. Voilà, alors la théorie de l'esprit, le neurone miroir, il pâlisse un petit peu. Alors que la théorie de l'esprit, maintenant, elle prend beaucoup d'expansion parce que ce n'est plus une théorie. On sait exactement où passent les neurones qui sont responsables de ça. Vous voyez, quand on parle, comme ça, je vous parle, je vous regarde dans les yeux, j'essaye de comprendre si vous me comprenez, et puis en même temps, dans quel état émotionnel vous êtes. Et puis c'est l'inverse pour vous, faites la même chose. Vous voyez, on sera un peu différent à la fin de l'exposé, moi aussi. Vous voyez, donc ça, c'est le principe de base. Alors, les autistes, malheureusement, n'ont pas cette théorie de l'esprit normalement. C'est pour ça qu'ils vous paraissent un peu froids, puis qu'ils vous disent vos quatre vérités, ça. Sans avoir peur de vos réactions, vous voyez, c'est pas. Alors, cette théorie de l'esprit, ça commence, Jean Gabin, il pense, j'ai envie d'embrasser, je sais plus qui c'est, Michel Morgan, bravo, merci. Jean Gabin, il pense, il a envie d'embrasser Michel Morgan. Michel Morgan, elle pense, Jean Gabin a envie de m'embrasser. Jean Gabin, il pense, Michel Morgan pense que je pense que j'ai envie de l'embrasser. Donc, alors, ça, c'est ce qui nous permet, comme ça, les interactions, mais il n'est pas du tout sûr que ses pensées soient bonnes, Jean Gabin. Donc, il ne va pas dire j'ai envie de t'embrasser. Il dit tu as de beaux yeux, tu sais, mais elle comprend parfaitement ce qu'il veut dire, ce à quoi il pense, quoi. On a vu des Japonais qui nous ont dit qu'au Japon, il aurait dit ce soir, la lune est belle. Voilà, c'est pas. Donc, c'est l'histoire. Donc, alors, cette théorie de l'esprit, elle, récemment, on a montré qu'elle se met en route avec la musique. C'est-à-dire que quand vous entendez une musique, eh bien, votre cerveau, il considère que c'est quelqu'un qui vous parle. La théorie de l'esprit se met en route, ce n'est pas simplement une vibration dans l'atmosphère, c'est quelqu'un qui vous parle. Donc, vous voyez, de l'art visuel, c'est quelque chose de vivant. Vous entendez de la musique, votre cerveau, il considère aussi que c'est vivant. Donc, vous n'êtes pas tout seul, il y a quelqu'un qui vient vous annoncer tout ça. Il agit directement sur la théorie de l'esprit. Donc, si vous arrivez à cette notion d'empathie esthétique, on parle toujours d'empathie, mais la première fois que le mot a été prononcé, c'était une thèse de philosophie d'esthétique. Ça s'appelait en allemand l'Einfühlung, le ressenti de l'intérieur. Donc, c'est ce qui nous a donné cette idée. Voilà, donc, et finalement, c'est quand même merveilleux. Quand vous êtes devant une œuvre d'art, l'artiste, il s'incarne à l'intérieur de vous. Il va sculpter, caresser votre cerveau, il va vous modifier votre cerveau. Et quelque part, ces idées s'incarnent à l'intérieur de vous. On dit toujours que notre cerveau, il fait de l'esprit. Mais devant une œuvre d'art, c'est bien un esprit qui s'incarne à l'intérieur de vous. Et donc, c'est pour ça que ça peut vraiment vous aider, vous modifier. Voilà, ce qui paraît quand vous voyez la Joconde, ben, vous voyez un peu Léonard de Vinci qui rayonne toujours, qui vient dans votre cerveau. Et puis, on peut retourner la situation. On peut dire que nous, puisqu'on est sculpté par nos expériences, par les œuvres d'art auxquelles on a été confrontés, ben c'est une bonne nouvelle, nous sommes tous des œuvres d'art, puisque nous reflétons notre parcours. Voilà. Alors quand Michel-Ange, dans le plafond de la Sixtine, représente le créateur, il lui fait la forme d'un cerveau. Vous voyez, c'est Michel-Ange avait beaucoup disséqué, bien plus que Léonard de Vinci, mais il s'est jamais fait attraper. Et donc, il donne au créateur la forme d'un cerveau. Alors, je suis très malheureux parce que c'est un gynécologue texan qui a découvert ça. J'aurais préféré que ce soit un neurologue. Voilà. Voilà. Donc, c'est un petit peu aussi pour ça que Dürer se représente en créateur, parce qu'il crée sa toile. Et puis, on a aussi. Pareil, Michel-Ange, à la fin du trajet dans le plafond de la Sixtine, il nous représente Dieu qui sépare la lumière des ténèbres, mais quand vous regardez son créateur, il a un goitre, il est bossu, c'est Michel-Ange, c'est un autoportrait, quoi. Il est créateur, il rentre dans sa pièce, quoi, dans son œuvre. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire chez Michel-Ange, c'est d'avoir laissé un espace entre les deux index, et puis c'est là qu'est toute son idée, son génie. Il y a un espace, et c'est ça le plus important, c'est dans l'antre. Quand vous êtes face à une œuvre d'art, c'est pas l'œuvre d'art, c'est pas vous le principal, c'est les interactions entre les deux. C'est pourtant du vide, mais ces interactions-là qui justifient tout. Donc c'est cet antre qui est fondamental. Alors François Cheng, il avait dit, c'est dans l'antre que se situe la transcendance. Vous voyez, alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, là j'ai avancé, pardon. Voilà. Hop, voilà. Voilà, alors le premier art thérapeute, c'est Aristote. Vous voyez, ça ne remonte pas à aujourd'hui. Donc Aristote, dans sa poétique, il dit que quand vous allez voir une pièce de théâtre, ben, vous vivez par transitivité les émotions des acteurs. Donc vous vous identifiez aux acteurs et vous amène dans des endroits où vous ne seriez jamais allé. Bon, c'est le principe de toute œuvre d'art. Elle vous fait sortir de votre cage. En même temps, elle peut vous purger de vos émotions. Vous voyez, les acteurs vous amènent très loin. Et puis vous ressortez, vous allez mieux. Ça peut même être brutal, ça peut être ce qu'on appelle catharsis, quoi. Vous êtes guéri d'un coup, quoi. C'est pas. Alors, en musique, on a ça. Si, par exemple, vous êtes triste, vous allez écouter du Chopin. Il y a Chopin qui vient avec sa tristesse. C'est tellement beau que ça vous fait sécréter la dopamine, la sérotonine, les endorphines. Et puis, c'est une voix. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là. Votre système de la théorie de l'esprit se met en route. Donc, Chopin est là. Il vient vous parler. Vous êtes moins triste. Vous avez secrété toutes ces bonnes choses. Vous avez un ami qui est venu vous parler, qui a pris un peu de sa tristesse avec lui. Tout de suite, ça va beaucoup mieux. Alors, il y a la même chose avec le Hellfest. Moi, j'ai un fils qui allait au Hellfest tous les ans. Quand il rentrait, ben, il était en pleine forme. Il avait purgé toute sa violence et tout. Moi, j'avais peur qu'il rentre enragé. Mais c'était l'inverse tous les ans. C'est pas vrai. Voilà, alors donc quand vous êtes comme ça, par exemple dans la Sixtine, que vous êtes entouré de toutes ces peintures, vous imaginez qu'il y avait aussi de la musique, les castrats qui chantaient là, ben, quand vous sortez de là, vous avez l'impression d'être différent, vous avez été transformé, on peut vraiment parler de renaissance, et c'est pas pour rien que Michel-Ange, mais entre le plafond et le mur du fond, il met Jonas, quoi. C'est vraiment, vous êtes sorti du vent de la baleine, quoi. Vous êtes rentré dans une œuvre d'art, elle vous a sculpter le cerveau, elle vous l'a caressé, vous n'êtes plus le même, vous êtes différent, donc ça peut vraiment vous aider comme ça à renaître. Alors, si vous doutiez encore des effets de l'art, on peut parler de Stendhal. Vous savez, Stendhal, quand il traverse les Alpes à pied, il arrive à Florence, il va à Santa Croce, et puis il regarde des reproductions des fresques qui représentent des sibylles au plafond, et puis il a un malaise, il se sent tout bizarre. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal. Alors, quand on lit, c'est pas trop ce qui lui arrive. Ça ressemble un peu à un élan amoureux, mais en même temps, on a l'impression qu'il est prêt à tomber dans les pommes. Enfin, en tout cas, il a une énorme émotion. Alors, il n'y avait pas de caméra à l'époque, mais il y a un film qui s'appelle avec Peter O'Toole, où il présente un syndrome de Stendhal. La nuit des généraux. Alors, qui est-ce qui a déjà senti un syndrome de Stendhal ou failli, hein, ça vous est arrivé quand même. Déjà, les frissons avec la musique, je pense que ça arrive à tout le monde, mais se sentir transporté par une œuvre d'art, ça arrive. Alors, les gardiens de musée, notamment à Florence, sont au courant parce que des fois, ça peut être méchant, quoi. Là, on peut s'évanouir, mais il y a des gens qui ont envie de détruire l'œuvre parce qu'ils trouvent que c'est trop beau, quoi. Vous voyez, c'est pas. Alors là, je ne vous parlerai pas des trois femmes, ce serait trop long. J'en gardais qu'une, hein, ces trois femmes avec lesquelles j'ai eu le plaisir de passer le confinement, puisque ma fille était rentrée de Paris, comme tous les Parisiens, elle rentrait chez papa-maman. Le lendemain, elle était couchée, elle avait le Covid à l'époque, donc je suis pas allé travailler pendant 3 semaines. Bon, ben, donc j'ai lu ses biographies, puis c'était parfait. Alors, il y en a une qui s'appelle Aloïse Corbaz, elle est devenue folle, elle est devenue schizophrène, et puis elle a développé l'art brut dans des conditions extraordinaires. Et Jean Dubuffet, qui s'intéressa à son cas, elle a dit, en quelque sorte, hein, elle n'a pas pu sortir de l'asile, mais elle a pu vivre. Donc il dit, elle s'était guérie par le procédé qui consiste à cesser de combattre le mal, à entreprendre, tout au contraire, de le cultiver, de s'en servir, de s'en émerveiller. Mais je vais parler surtout de Niki de Saint-Phalle, comme ça nous fera, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est donc Niki de Saint-Phalle, et puis ça correspond un peu à la période, elle a un gros souci quand elle a 20 ans, donc on est vraiment un souci de santé mentale. Donc Niki de Saint-Phalle avec son serpent, là, qui a une grosse importance. Donc Niki de Saint-Phalle, elle naît dans une famille avec un père banquier, je crois une mère américaine, enfin, à 18 ans, elle épouse un poète, elle est dans tous les magazines, c'est la star, donc on pense qu'elle est promue à une vie extraordinaire. Et puis à 20 ans, on la retrouve dans un asile psychiatrique à Nice, où elle va vraiment mal. On est obligé de lui faire des électrochocs. À l'époque, des cures à l'insuline. On pensait soigner les gens de la mélancolie en leur provoquant des comas hypoglycémiques. Je ne sais pas qui a eu cette brillante idée, mais enfin. Et puis là, c'est là qu'elle va découvrir, bah, qu'en créant, c'est mieux que les cures à l'insuline ou tout ce qu'on peut lui faire. Donc c'est de là que va venir son travail. Et puis, vous voyez, elle est dans son sac à main, elle a un revolver, un couteau, enfin, elle s'est tellement mordu les lèvres qu'il va falloir la recoudre. Enfin, il lui est arrivé quand même quelque chose d'important. Elle dira ce qui lui est arrivé que bien longtemps après, 30, 40 ans après, elle va raconter ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui lui est arrivé quand elle avait 12 ans? Voilà, elle fera ce petit livre qu'elle écrit en français, qui est vraiment une figure de résilience, vous voyez, avec le crâne en noir et blanc, comme au Mexique, et puis ces fleurs de toutes les couleurs qui en sortent, quoi, c'est pas. Donc elle écrit ce livre, voilà, pour tenter de me délivrer de ce drame qui a joué un rôle déterminant dans ma vie, une rescapée de la mort. J'avais besoin de laisser la petite fille en moi parler. Enfin, mon texte est le cri désespéré de la petite fille. Alors, Niki de Saint-Phalle, son père, tous les ans, il loue une maison à la campagne, dans les environs de New York. Donc, cette année-là, bon, on est en 1942, on trouve dans un champ à côté deux serpents, des serpents méchants, quoi, très venimeux. Alors, la technique, c'est de mettre le feu au champ. Pour les brûler, pour qu'ils s'éloignent, quoi, ça. Et puis bon, ils sont en vacances en famille. J'ai toujours un grand frère qui est un peu sot, qui fait des bêtises. Donc un des grands frères, il retrouve le serpent calciné, il le met dans le lit de Niki de Saint-Phalle. J'imagine la petite fille à 12 ans, elle va se coucher, le serpent calciné dans le lit. Alors elle se sauve, puis il y a un grand cousin qui est là, elle va dormir avec le grand cousin. Mais bon, alors le lendemain, la famille Niki de Saint-Phalle sont des catholiques très stricts, alors elle prend une tarte, hein, on ne va pas dormir dans le lit du cousin, même s'il y a un serpent calciné dans son lit. Et puis, dans les jours qui suivent, ben, son père commence à la violer, quoi, tout l'été, donc c'est ça qui a... Alors elle ne le comprend pas, son père, bien sûr, c'est tout pour elle, elle a 12 ans, alors elle essaiera d'expliquer, elle dit ben, peut-être son travail de banquier l'étouffait, etc. Mais enfin, entre-temps, il a conduit à l'asile psychiatrique à 20 ans. Et elle s'en est sortie qu'avec ses œuvres d'art. Voilà. Elle a fait beaucoup de monstres. Celui-là, il est à Toulon. Hein. Elle a fait beaucoup de monstres. C'est son père, hein, tout ce monstre avec des couteaux, etc. Et puis, voilà. Et puis, elle devient célèbre. Elle quitte son mari, elle rencontre Jean Tinguely. Et elle est célèbre à 22, 23 ans. Elle est très jeune avec ses premières œuvres. Vous savez, où elle tire au fusil sur des toiles blanches dans lesquelles on a mis des poches de peinture. Donc la peinture dégouline, c'est vraiment une métaphore de ce qui lui est arrivé, quoi. Il y a toute la violence, il y a tout ça. Voilà. Alors elle a du succès parce que c'est une jolie fille qui tire au fusil, mais c'est surtout Tinguely qui en récolte tous les fruits. Il faudra attendre, et puis elle deviendra célèbre, bien sûr, avec ses nanas, qui seront ses femmes de toutes les couleurs, légères, qui s'envolent et tout. Donc ce sera qui assurera sa célébrité. Elle en a même fait pour un ballet de Roland Petit. Et puis à Stockholm, en 1966, elle va remplir tout un musée avec une énorme nana. Vous voyez, donc voilà un peu ce que ça donne. Vous voyez, on rentre dans la nana. Donc dedans, il y a une exposition de faux tableaux, un observatoire astronomique, une salle de ciné, un bar. Enfin, il y a tout un tas de choses. On peut passer du temps là-dedans. Et 9 mois après, il paraît que les naissances ont explosé à Stockholm. Donc on a pensé que c'était grâce à elle. Et puis après, l'idée de se mettre dans une œuvre d'art pour se sauver, elle va faire ce jardin qu'elle fait en Italie avec le jardin des tarots. Donc c'est le tarot astrologique, avec chaque fois toutes les figures du tarot très grandes dans lesquelles on peut habiter. Alors elle va habiter là-dedans. Vous voyez, donc c'est sa chambre. Donc elle se met dans une œuvre d'art pour se protéger, pour se guérir, quoi. C'est pas... Et puis voilà. Et puis bon. Alors un homme Matisse, alors on est pareil la même année, en 1942, vous voyez, Matisse, il est pas au mieux de sa forme, on l'a opéré des intestins, il n'arrive plus à peindre debout, il est obligé de s'allonger, il s'est séparé de sa femme mais qui vient d'être arrêtée par la Gestapo, sa fille également, il ne sait pas qu'elle arrivera sauvée du train qui l'amène en camp, quoi, c'est pas donc, il est là, là-haut, à Cimiez, et donc il redécouvre une façon de pouvoir continuer son activité avec des grands ciseaux. Et puis voilà, et puis il va nous faire son Icare. Alors, il y a une expo qui démarre au Grand Palais sur les dernières œuvres de Matisse. Alors son Icare, vous imaginez, ce gros bonhomme qui ne peut plus bouger, il se transforme en Icare. Alors ce qu'il y a en jaune, c'est les explosions, les bombardements de Nice. Puis vous voyez, le cœur ensemble, bon, c'est le baroud d'honneur quoi, du vieux fauve, qui, grâce à l'art, réussit à s'en sortir. Alors, comment sortir de toutes ces histoires? Alors, c'est peut-être un Allemand qui nous a donné la raison. Comment transformer la cicatrice, la blessure en lumière? Cet Allemand, c'est Joseph Beuys, vous voyez. Donc, curieux personnage, hein. Vous savez qu'il est dans un avion, dans la Luftwaffe. L'avion est bombardé au-dessus de la Crimée. L'avion s'écrase, le pilote est mort. Et lui, il a un gros trou dans la tête, ce qui fait qu'il mettra un chapeau sur sa tête toute sa vie. Et puis, il va dire qu'il a été récupéré par des Tatars, des indigènes locaux qui l'ont récupéré, qui l'ont soigné, qui l'ont mis dans du feutre, etc. Et ça va être le début de la mythologie de toute son œuvre d'art. On sait aujourd'hui qu'il a peut-être tout inventé, qu'il a peut-être été tout simplement récupéré par la Croix-Rouge, mais ça n'a aucune importance. Sa mythologie, ça a servi toute son œuvre et ça l'a permis de germer, quoi, voilà. Alors, c'est le premier artiste, un Allemand, qui osera parler d'Auschwitz en peinture, enfin en art. Donc, on est en 1966, vous vous rendez compte, 18 ans après, un artiste qui évoquait l'Holocauste. Alors voilà ce qu'il nous fait. Il nous fait une présentation dans une vitrine. C'est le maître d'Ansel Kiefer. Hein, Kiefer, il a fait beaucoup de présentations comme ça dans des vitrines. Donc qu'est-ce qu'il nous met pour nous représenter Auschwitz? Bon, des choses pas très ragoûtantes. Hein, du gaz, du boudin fait avec du sang humain, un Christ comestible. Et puis, par contre, vous voyez, il nous montre. Enfin, son idée, c'est de nous le montrer derrière une plaque de verre. Vous voyez, donc il dit, je le mets derrière une plaque de verre, vous risquez rien. Il y a une vitrine, vous êtes protégé, comme une cloche à fromage. Il dit, voilà, je vous montre le monstre, donc il vous fera moins peur. À partir du moment où vous allez le voir, vous allez pouvoir mettre des mots dessus, ben, vous allez pouvoir modifier, raconter votre passé, et donc pouvoir avoir un avenir. Vous voyez, c'est pas. Donc c'est son idée. Et puis, voilà, donc ça fait penser au monstre de Niki de Saint-Phalle. Et puis, quand même, vous voyez, les vieux maîtres, quand ils montraient des images comme ça, il y avait toujours un crucifix dans un coin. C'était un symbole de résurrection. Donc, on peut en sortir. Et là, il nous met une photo du suaire de Turin. Donc, de tout ce que je vous montre, c'est horrible, mais il y a le suaire de Turin. Donc, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez transformer la blessure en lumière. Donc, c'est lui qui va avoir la réponse. Il va nous dire, voilà, quand un couteau vous blesse, il faut mettre un pansement. Vous êtes d'accord, vous saignez. Mais où est-ce que vous allez mettre le pansement? Eh bien, il faut mettre le pansement sur la lame du couteau. Comme ça, il ne pourra plus vous blesser. Donc, je vous montre Auschwitz, je mets un pansement autour, je mets une vitrine. Donc, ça ne peut plus vous faire de mal, vous pouvez en parler. Eh bien, le couteau, tout ce qui vous a blessé, vous mettez un pansement autour, ça ne peut plus vous faire de mal. Vous voyez, donc c'était. Et c'est comme ça que Wagner va finir son Parsifal. C'est-à-dire qu'il a. Parsifal, c'est le valeureux chevalier, c'est le Han Solo. Enfin, il va récupérer la lance et puis il va l'appliquer sur la blessure d'Amfortas. Mais comme entre-temps, il y a eu le pansement Wagner, il y a toute la musique de Wagner autour, il va guérir. Vous voyez, c'est pas ça. Vous avez Claire Hopper qui joue du violoncelle, qui a écrit un beau livre qui s'appelle Le pansement Schubert. Elle montre quand elle joue du Schubert, ben, les gens ont moins mal. Mais on sait pourquoi maintenant, parce qu'il y a la sécrétion de morphine. Donc voilà la fin. La fin, vous voyez, je vous ai épargné les 6 heures de Parsifal. Le pauvre Amfortas, et puis Parsifal qui arrive avec sa lance. Le pansement Wagner. Et voilà, il est guéri. Donc la cérémonie du Graal peut reprendre. Et la blessure devient lumière. Voilà, alors juste pour finir, un petit mot avec le Clésio, c'est que on pourrait parler aussi du syndrome de Le Clésio. Hein, c'est pas... Le Clésio, vous savez, quand il est en prépa à Nice, il déserte un peu les cours, il squatte une maison, il écrit un roman, il envoie par la poste, il a le Renaudot, c'est dans le procès verbal. Il est beau comme un dieu, ça devient la vedette. Tous les ans, il sort un livre un peu expérimental. Et puis à 30 ans, il sait plus quoi faire, il est un peu au bout du rouleau, il veut rentrer dans un monastère bouddhique, il va au Panama. Et puis il rencontre des Indiens d'Amazonie, puis il se lie d'amitié avec eux, puis il va vivre avec eux pendant des années. Il a passé la plus grande partie de l'année dans ce village perdu au fond de l'Amazonie. Et ça, il s'en est souvenu le jour de son prix Nobel de littérature. Ben, il s'étend longuement sur son séjour chez les Indiens, en disant qu'il est devenu un peu un Indien, qu'il pensait comme un Indien. Et puis, il raconte ce fait qui l'a marqué, c'est-à-dire quand il est avec ses Indiens, on amène dans le village une jeune femme qui a un cancer en phase terminale, dont notre médecine ne peut rien faire pour elle, donc elle retourne au village. Imaginez, elle est au bout du rouleau, quoi. Et puis, alors, il y a les chamans qui sont là, il y a des fumigations, on chante, on danse, et puis à un moment, il voit son visage qui s'éclaire, quoi, la blessure qui devient lumière. Et à ce moment-là, il a une énorme émotion esthétique, la plus belle de toute sa vie, et il dit, jamais j'aurais pensé que ce serait au milieu de l'Amazonie que j'aurais une émotion esthétique comme ça. Je pensais que ce serait dans un musée, enfin, en lisant un livre. Donc, il a cette phrase absolument extraordinaire, il dit, un jour, on saura peut-être qu'il n'y avait pas d'art, mais seulement de la médecine. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Merci à vous. Je ne sais pas l'heure, j'étais dans les temps. Ça va. Parfait, super, merci.
Bonjour et merci, Christine Charnier, son intervention. Moi, je suis très curieuse, c'est passionnant, peut-être on a envie de faire de la méthodologie plus en 5 minutes. Qu'est-ce qui vous a amené vraiment à vous intéresser à tout ça, de manière aussi fine en fait.
Ah, c'est gentil, c'est toujours ce qu'on appelle les interactions précoces. Je suis né dans un café-restaurant pour routier, qui était en face de l'école des Beaux-Arts d'Épinal. Ma mère était en sanatorium, donc il y avait les étudiantes qui venaient à 5 heures prendre un chocolat, donc c'était des mères de substitution, et donc j'avais mes entrées dans l'école des Beaux-Arts, donc c'était quelque chose. Et puis derrière, il y avait l'église, où j'étais enfant de chœur, et puis il y avait l'orgue, donc je voulais apprendre à jouer de l'orgue. Donc c'était des interactions précoces, pour moi c'était intéressant. Et puis après, quand je me suis embarqué en médecine, Eh ben, je collectionnais tous les articles sur le sujet. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, chaque fois qu'il y avait une étude qui sortait sur les effets de l'art sur le cerveau, je faisais la collection, quoi. Et puis après, bon, ben, je commence à avoir beaucoup de sources. Et puis, j'ai eu la chance. Vous avez dit que j'avais fait de la sexologie. Quand j'ai passé le diplôme de sexologie, il y avait un certain Boris Cyrulnik qui enseignait en sexologie l'attachement. Vous voyez, son dernier livre, il en parlait déjà il y a 40 ans, quoi, là. Et donc, bon, bah, évidemment, vous le rencontrez une heure, vous êtes séduit, quoi. Donc, c'est un peu pour ça que je suis venu sur Toulon. Et donc, il m'a confié, dans une recherche qu'il faisait sur vieillissement et résilience, il m'a demandé de m'occuper de la musique. Donc, vieillissement, résilience et musique. Et c'est comme ça qu'on a développé la musique dans l'Alzheimer. Maintenant, c'est une évidence, comme à l'époque, on ne pensait pas. J'ai eu la chance de faire un exposé sur la musique à la Pitié-Salpêtrière, où finalement, à la fin, des plus grands neurologues de France me dit, mais finalement, dans l'Alzheimer, on n'a que ça, on n'a que la musique, quoi. J'étais content. Et je pense qu'il y a 20 ans, il n'aurait jamais dit ça, quoi. J'avais réussi à le convaincre. Et puis, ça prouvait sa plasticité cérébrale. Enfin, il avait été convaincu, quoi. Donc, c'est pour ça. Puis après, de la musique, ben, comme ça marchait bien avec la musique, pourquoi pas les arts visuels? C'est comme ça, de fil en aiguille, que ça s'est développé, quoi. Mais bon, c'est toujours l'enfance qui marque, hein. C'est petit, vous pouvez rentrer aux Beaux-Arts. Puis c'est des mères de substitution, quoi. J'avais plein de mamans à 17 h qui je les dessinais, elles me dessinaient. Enfin, c'était très agréable, quoi, ça. Et puis l'orgue, bah, j'ai fait ce qu'il fallait. Enfin, j'étais organiste entre 15 et 25 ans, donc j'ai gardé la marque pour provoquer des émotions en musique. J'ai un peu appris à le faire à ce moment-là, quoi.
Je voulais vous remercier beaucoup, vraiment énormément.
Merci.
Je vous remercie beaucoup. Moi, je suis psychiatre, pas neurologue, mais alors j'ai régulièrement d'un coup des interrogations neurologiques sur tout ce que je traverse dans ma vie quotidienne en psychiatrie. Voilà, je vous remercie parce que voilà, c'est un vrai voyage de plein de choses voilà, qu'on capte de façon tendance intuitive, tout d'un coup on s'en étonne, tiens, il se passe ça. Puis là, vous nous avez mis plein de choses en maillage, des points qui raccrochent les choses. Voilà, donc merci beaucoup. Et voilà, je voulais un petit peu vous demander, parce que moi, ce qui me trotte dans la tête depuis quelques mois, c'est la question du mouvement corporel aussi, de toute cette mise en mouvement. Vous avez essayé d'en parler un petit peu tout à l'heure, là, de se lancer, d'aller
Oui,
vers
oui.
et de vivre aussi des choses dans le mouvement. Voilà, donc est-ce que voilà, c'est quelque chose que vous pouvez développer un petit peu?
Oui, parce que bon, bah, la danse fait partie aussi, bien sûr, de l'art-thérapie, il y a la danse-thérapie, etc., où là, on a montré, ça atteint aussi. La musique est beaucoup plus représentée dans notre cerveau que le langage. Donc, ce qui est musique, ce qui est danse, etc., ça va. On est en amont du langage, donc ça va utiliser bien plus de zones dans notre cerveau. Et donc, ça va avoir un gros impact thérapeutique ou pour le bien-être, c'est sûr. Donc, c'est très développé aussi dans notre diplôme. On a aussi la danse qui est. En général, on a quelqu'un qui vient nous parler de la danse, quoi. Souvent, on couple un chercheur et un art-thérapeute. Donc, c'est bien parce qu'ils ont chacun une vision différente. Et puis, souvent, ça marche très bien. Ce qui a le mieux marché jusqu'ici, c'était le parfumeur. On a un parfumeur qui. Tous les créateurs de parfums, on pourrait l'écouter pendant des jours, quand il parle, il parle, il parle, mais on ne se lasse pas, quoi. Alors, l'avoir à coupler avec une chercheuse pure et dure sur les odeurs, ça les a transformés tous les deux, quoi. La chercheuse, ça lui a fait un bien fou, lui, ça lui a permis de comprendre un peu ce qu'il faisait. Et quand ils parlent tous les deux, c'est exceptionnel, quoi. C'est un moment de bonheur, quoi. Mais je crois que cet après-midi, vous aurez quelques parfums de Jean-Charles Sommerin. Ah oui, alors la troisième femme, c'est une femme qui est née. Il faut que le nom me revienne comme là. Enfin bon, il y a eu un prix Renaudot qui a parlé de. Voilà, c'est Charlotte. Charlotte, j'ai plus son nom de famille. Enfin, le bouquin s'appelle Charlotte. Et donc, elle naît dans une famille allemande. C'est une famille de bipolaire. Les femmes se suicident dans la famille, mais on ne lui dit pas tout de suite. Elle l'apprend que plus tard par un grand-père qui va lui apprendre ça. Et en même temps, ils sont juifs. Donc, ils sont en Allemagne, Hitler arrive au pouvoir. Donc, à un moment, son père la protège, il l'envoie sur la Côte d'Azur, où elle va retrouver les grands-parents maternels. C'est là qu'elle apprend que dans la famille, toutes les femmes se suicident. Donc, cette fille, elle a 20 ans, elle se dit, donc, si je ne me suicide pas, je vais être attrapée par les nazis, quoi. Donc, elle rencontre une femme qui a un petit hôtel, et elle sympathise, et pendant 18 mois, elle va créer 900 œuvres d'art, 9 sur format A4, avec que des couleurs primaires, où elle raconte sa vie, comme a fait Aloïse. Donc, elle raconte sa vie comme c'est un opéra, et puis quand elle a fini tout ça, elle le donne à un médecin qu'elle connaît, elle se marie, elle donne sa religion, donc elle est déportée avec son mari à Auschwitz. Et puis le père va recevoir après-guerre, le père lui s'en est sorti, il retravaille à Amsterdam, c'est un grand chirurgien, c'est le meilleur ami du père d'Anne Frank. Donc il va recevoir, imaginez, il n'a pas vu sa fille, il sait qu'elle est morte, il reçoit les 900 images qu'a fait sa fille, avec, c'est un peu comme une bande dessinée, chaque fois il y a des musiques à écouter, un phylactère avec. Et donc, c'est comme ça que son œuvre est connue, quoi. Mais bon, c'est surtout le roman Charlotte qui a fait. Voilà, c'est Fenkinos qui a écrit le roman. Alors, ce n'est pas l'écriture de Fenkinos habituelle. On sent qu'il est complètement tombé sous le charme de Charlotte. Donc, c'est très lyrique, quoi. C'est pas. Donc, il refait sa vie et puis il raconte, il va à tous les endroits où il est allé. Et puis, alors, le roman est magnifique. Enfin, c'est du Fenkinos, quoi. Ça se lit bien. Et puis, il a eu le renouveau avec ça. Ça a permis de connaître cette Charlotte. Et alors, toute son œuvre est au musée juif d'Amsterdam, où il y a à la fois les musiques qui vont avec et tout, mais bon, une fois de temps en temps, il y a des expositions qui relatent son existence, quoi. Alors là, il avait eu le beau mot, Fenkinos, il dit qu'elle était en apnée créatrice. Donc, pendant 18 mois, elle fait tous ses bouquins qui lui permettent, à la limite, à l'époque, après, elle s'en moque, qu'il lui arrive quoi que ce soit, elle a fait son œuvre, elle s'est mise dans son œuvre. Qui s'appelle Est-ce la vie, est-ce du théâtre? C'est vraiment l'idée, je me mets dans mon œuvre d'art, je suis tranquille, il peut plus rien m'arriver, quoi. Ben, Freud a fait un peu ça, hein. Vous savez, Freud, sur la fin de sa vie, donc il a échappé de justesse au camp de concentration, c'est Marie Bonaparte, une de ses élèves, qui l'a aidé à aller en Angleterre, donc il est en Angleterre, il échappe au four crématoire, mais il a un cancer du larynx pour avoir trop fumé, c'est pour ça qu'il prend beaucoup de morphine, et à la fin, quand il meurt, il demande à être incinéré, donc il est incinéré, et il demande à ce que ses cendres soient mises dans une urne grecque que lui a offert Marie Bonaparte. Donc, pour la vie, Freud, il repose avec son épouse, ses cendres, dans une urne grecque du temps de Platon, quoi, vous voyez, c'est pas donc. Pourquoi il a fait ça, et enfin, c'est quel était son attrait pour l'art et puis pour les antiquités, mais il se trouve pour l'éternité à l'intérieur d'une œuvre d'art, comme Liquide Saint-Phalle voulait être à l'intérieur et tout. Il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est intéressant parce que je voulais savoir ce qu'il y avait sur cet amphore. Et il y a quelques années, il y a des gens qui ont essayé de la voler. Donc, ils ont cassé la fenêtre, ils ont attrapé le vase qui est tombé, qui s'est cassé. Donc, il a été recollé. Du coup, on a pu voir des images. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il a choisi, Freud, pour être dans le vase grec dans lequel il est? Alors, tout simplement, ben, on voit une ménade qui danse devant Dionysos, quoi. Donc, c'est Eros qui combat Thanatos, quoi, c'est pas. Puis, pour la petite histoire, il est juste à côté d'Amy Winehouse. Enfin, il est dans le coin des toxicos, dans le grand funérarium de Londres, quoi. C'est marrant de savoir qu'il y a Amy Winehouse qui est à côté, quoi, c'est pas. Et puis, bon, alors, j'imaginais qu'ils avaient peut-être mis les phrases. Cette belle phrase de John Keats, la beauté est vérité, la vérité est beauté, c'est tout ce que l'on sait sur Terre et c'est tout ce qu'il faut savoir, quoi. Ce serait pas mal d'avoir mis ça sous cette urne grecque, quoi.
Bonjour.
Oui.
Vous avez mis en lien tout ce qui est musique, art visuel avec la médecine, on part du principe donc que tout est créé par l'homme. Est-ce que vous mettez sur le même plan tout ce qui est naturel, des très beaux paysages, des couleurs, des fleurs, des bruits naturels? Est-ce qu'on peut le mettre sur le même plan?
Je pense que oui, bien entendu. Alors, quand il y a une création humaine, disons le créateur, il a fait un peu une traduction. Parce que la nature, on peut pas, on n'en perçoit qu'une toute, toute petite partie. Donc, quand il y a un artiste qui il nous montre une facette de la nature, ça nous le rend directement comestible. Mais bon, on peut qu'être émerveillé par tout ce qui se passe dans la nature. Je veux dire, là, on est pris, mais on a moins de... Voilà, si un artiste, il l'a traduit, donc on peut comprendre ce qu'il a fait. La nature, c'est vraiment ce qu'on ressent. On ne voit que ce qu'on veut voir, quoi. Donc, bon, mais là aussi, elle peut nous faire voir tout un tas de choses en plus, quoi. C'est pour ça qu'on est des œuvres d'art, puisqu'on est sculpté par tout ce qui nous entoure. Mais bon, on sait combien ça nous fait. C'était Debussy disait qu'il préférait voir un vrai clair de lune que d'écouter Beethoven, quoi. C'était pas ça. Il y a un peu ça aussi. C'est pas. Mais après, bon, à ce moment-là, on est dans la contemplation. Il faut se laisser imprégner. Bon, il y a beaucoup de choses. Je suis amusé à écrire un petit texte qui va pas être plus tard sur 4 minutes 33, l'œuvre de John Cage. C'est John Cage, il a fait une musique, 4 minutes 33, qui est silencieuse. C'est le pianiste, il s'assoit, il joue rien pendant 4 minutes 33. Et il a gardé une forme sonate. Il y a trois mouvements, 30 secondes, 2,40, 1,20, pour arriver à ces 4 minutes 33. Mais l'idée, évidemment, à la première, les gens hurlaient, ils ont quitté la salle, enfin, personne n'était content. Et pour le Covid, il y a Cyril Petrenko, qui est peut-être le plus grand chef d'orchestre actuel, quoi, qui l'a joué en rappel à Berlin, au Philharmonique de Berlin, parce que le Philharmonique allait être fermé pendant quelques mois. Donc en rappel, il joue 4 minutes 33, c'est-à-dire qu'il dirige l'orchestre et personne ne joue, quoi. Et là, ça a été des applaudissements nourris, tout le monde a applaudi parce qu'on a compris ce qu'il voulait dire, quoi. Alors l'idée de John Cage, c'était quand même vraiment d'entendre, au début, premier mouvement, on entend notre cœur qui bat, notre respiration, celle des autres. Deuxième mouvement, on sort de la salle, les salles sont toujours bien insonorisées. Et si vous êtes dans le silence, vous pouvez partir de l'autre côté. Donc il entend les bruits de la nature. Puis troisième mouvement, là, il est parti dans le cosmos, il est dans la musique des sphères et tout. Et c'est quand ça finit, au bout de 4 minutes 33, il a rejoint l'infini. Et 263, enfin, 4 minutes 33, ça fait 273 secondes. Et moins 273, c'est le zéro degré absolu. Vous voyez, donc il y a une idée derrière. C'est pas pour rien que ça dure 4 minutes 33. Et il montre bien qu'en allant vers le zéro absolu, aucun son, enfin aucun instrument zéro degré, on arrive à l'infini, quoi. Donc il était imprégné par le zen, hein, c'est pour ça qu'il a composé ça. Donc un morceau qui paraît complètement loufoque, en fait, c'est peut-être la plus grande création musicale de tous les temps, quoi. Merci à vous.